série de mal au Moyen-Orient. Cela va permettre de comprendre comment les États riches du Golfe sont devenus le pôle le plus influent et le plus dynamique de la diplomatie arabe, du monde arabe, qui n'était pas le cas avant. Et donc, je vais essayer de dresser ce tableau à la lumière des grandes ruptures de l'ordre international. Donc, ma présentation se focalisera donc sur quatre points. D'abord, avec la fin de l'ordre unipolaire et l'essor de la dynamique golfienne au Proche-Moyen-Orient. En deuxième temps, j'évoquerai la manière dont l'Arabie saoudite intègre les contraintes du nouveau désordre mondial dans ses stratégies régionales. En troisième point, bien sûr, l'impact du 7 octobre 2023 et la question du rôle de l'Arabie saoudite dans la reconfiguration du Proche-Moyen-Orient. Et enfin, un constat d'incontournabilité du rôle des États-Unis dans la sécurité régionale. Donc, dans mon premier point, en fait, comment émerge le rôle central aujourd'hui des pays du Golfe au Proche-Moyen-Orient? Eh bien, surtout au détour de la crise financière 2008-2009, qui, l'Occident et en particulier les États-Unis, ne peut plus assumer seul la régulation de l'ordre international, et ce déclin relatif ouvre un espace où les États du Golfe deviennent progressivement le nouveau centre de gravité du monde arabe et sollicité également par les pays de l'OCDE en raison de leur immense richesse de fonds souverains et donc de liquidités qui ont permis quand même de non pas d'enrayer cette crise mondiale, bien entendu, mais en tout cas, cela a permis aux pays de l'OCDE d'être aidés en matière de liquidité. Les années 2010-2020 inaugurent un dérèglement global avec l'émergence d'un monde multipolaire, donc une démondialisation structurelle dans le sens où il y a une dérégulation et de fortes incertitudes stratégiques. Voilà, il n'y a plus le, entre guillemets, l'oncle Sam pour régler toutes les affaires, tous les passages et les flux maritimes primordiaux. C'est très clairement en phase de dérégulation. Or, pour que la mondialisation perdure, un ou plusieurs États doivent financer les biens publics mondiaux, défendre les normes et préserver les principes de souveraineté et de non-ingérence. Aucun acteur ne paraît en mesure d'assumer ce rôle aujourd'hui, dans les années 2020, et probablement pas davantage dans la décennie suivante. La pandémie a bien sûr accéléré ces tendances qui étaient déjà à l'œuvre dans les années 2010, donc avec une multipolarité accrue et une fragmentation économique. Alors, pour en revenir au Proche-Moyen-Orient, les printemps arabes, à partir de 2011, combinés au pivot américain vers l'Asie, vont transformer ces évolutions en véritable basculement géopolitique. Et dans ce contexte, les États les plus puissants du Conseil de coopération du Golfe, à savoir les 6 monarchies de la péninsule arabique, hein, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, bien sûr Émirats arabes unis, mais parmi ces 6 monarchies, 3 jouent un rôle central, et notamment 2, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et dans une un peu moindre mesure, le Qatar. Ils deviennent des pôles centraux face à l'Iran, qui constitue à cette période la menace essentielle, car l'influence régionale de l'Iran repose sur un réseau de proxys, hein, des alliés régionaux, dont le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes pro-iraniennes, et également l'Iran a soutient logistiquement et politiquement les Houthis qui sont ce mouvement rebelle du Yémen qui est à mon sens pas un proxy iranien mais bénéficie du soutien de l'Iran parce qu'il agit quand même de manière beaucoup plus autonome que le Hezbollah a pu le faire par exemple sous les ordres de l'Iran en Syrie. Donc, les modèles de croissance dirigés par l'État, inspirés par des trajectoires asiatiques de type Singapour, Malaisie et Chine, contestent le capitalisme libéral occidental. pas, les pays du TCG, s'inscrivent clairement dans cette dynamique-là de, d'État capitaliste autoritaire. Donc, c'est une manière quand même d'inverser clairement l'ordre des choses, puisque c'est clairement un modèle aujourd'hui en concurrence avec les modèles libéraux capitalistes occidentaux. Donc, ces modèles émergents de croissance défient les systèmes libéraux démocratiques occidentaux, et les États les plus riches du Golfe s'imposent comme les nouveaux entrants de ce type de modèle, au premier rang desquels figurent le modèle chinois et Singapour. Donc, dans cet ensemble, la dynamique saoudienne est particulièrement déterminante. Le royaume occupe une place singulière, c'est le gardien des deux lieux saints d'Islam, c'est la première économie arabe, c'est un membre du G20, il est détenteur de très importantes ressources minières, en plus de ses ressources en hydrocarbures, et sa politique pétrolière au sein de l'OPEP+, de ces pays de l'OPEP plus hors OPEP, lui confère une influence décisive sur les prix du baril. Et ce, malgré la volatilité qui caractérise cette économie pétrolière, l'Arabie saoudite a eu un rôle encore plus déterminant lors de l'invasion russe en Ukraine, où les hydrocarbures saoudiens étaient clairement, entre guillemets, drogués par les Russes. Alors, dans cet ensemble, la dynamique saoudienne est particulièrement déterminante. Le royaume, comme je le disais, occupe une place singulière. Alors, comment l'Arabie saoudite intègre les contraintes du nouveau désordre mondial dans ses stratégies régionales, c'est ce que je vais voir dans mon deuxième point. Donc, la multipolarité ouvre de nouvelles marges de manœuvre à de nombreux acteurs régionaux, et beaucoup de pays émergents adoptent ce que ce politique Yuval Noah Harari qualifie de libéralisme à la carte. C'est-à-dire que ces pays ne sélectionnent que certains aspects du modèle libéral, et les monarchies du Golfe, très clairement, font partie de ces économies arabes les plus mondialisées et illustrent bien cette logique de libéralisme à la carte. C'est-à-dire que c'est une mondialisation encadrée par un État puissant, un capitalisme centralisé, voire ultra-personnalisé autour d'une figure emblématique qui détient c'est le cas avec Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, qui est à la tête d'un fonds souverain l'un des plus puissants au monde, qui est en tête, et qui est en capacité de financer ses projets magnifiques à partir de sa décision personnelle. Donc plusieurs facteurs vont structurer les calculs stratégiques du pays du Golfe. D'abord, l'affaiblissement des États-Unis au Moyen-Orient. Le recul des États-Unis au Moyen-Orient découle de leurs échecs en Irak et en Afghanistan, et du choix stratégique aussi de réduire son engagement militaire dans la région, et cela de manière concomitante au printemps arabe, qui va énormément déstabiliser les pays du Golfe. Et donc, le retrait américain d'Irak, le retrait des répondu aux attentes saoudiennes après les attaques que l'Arabie saoudite a subies sur ses installations pétrolières en septembre 2019 et qui avaient été revendiquées par les rebelles houthis, mais qui en fait ont attribué, et ça tous les services de renseignement et de bord, à l'Iran. Et ça a paralysé quand même 15 jours de production pétrolière. Hein. Donc, les sites vitaux saoudiens sont attaqués et les États-Unis, sous Trump à l'époque déjà, refusent de mettre en œuvre des représailles contre l'Iran. Trump répondant au président saoudien, vous nous achetez suffisamment d'armes pour pouvoir vous protéger tout ça. Donc ça, ça a été un véritable traumatisme pour les Saoudiens, les Émiratis aussi, et donc la confiance là est au plus bas, que ce soit finalement une administration républicaine ou démocrate, ou continentale, pour les Saoudiens et les Golfiens. Et ce constat va favoriser un double mouvement, donc le rapprochement avec Israël, explique comme ça, et également, il faut le constat que un processus régional de désescalade, après une décennie d'interventionnisme infructueux, devient absolument nécessaire. Alors, très rapidement, je vais signaler les étapes de désescalade. Donc, je disais, en août 2019, les EAU se retirent tactiquement du Yémen, mais ils continuent à soutenir leurs proxys, hein, notamment le sud du Yémen. Le 15 septembre 2020, c'est les fameux accords Abraham, hein, qui sont signés entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël sous le parrainage américain. Le 5 janvier 2021, l'Arabie saoudite donc, commence très clairement sa période de désescalade et met fin à la crise avec le Qatar. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une crise du Golfe terrible entre juin 2017 et donc le 5 janvier 2021. Où les Saoudiens, les Émiratis, Bahreïn et les Houthis avaient mis sous embargo le pétrole. En avril 2022, Riyad aussi obtient une trêve entre le gouvernement yéménite et les Houthis, avec l'appui de l'ONU. Le 10 mars 2023, il y a une renormalisation des relations saoudo-iraniennes, puisqu'ils avaient rompu leurs relations en janvier 2016, suite à des tensions multiples. Et c'est sous médiation chinoise que cette renormalisation se fait. Et ça, ça va, contrairement à ce que vous continuez, beaucoup, beaucoup perturber les États-Unis. Les États-Unis sont très clairement déstabilisés par la perte diplomatique de ce moment. Et Biden, donc, à cette période, va lancer, à partir de mai 2023, d'intenses négociations pour une normalisation saoudo-israélienne. Faire entrer l'Arabie saoudite dans ce fameux accord Abraham. Alors évidemment, c'est vrai que le prince dit favorable, il est très clairement favorable, simplement il devient des tailles, la population ne l'est pas. Donc il annonce très publiquement qu'on est sur le point de normaliser. Il était loin du compte, même si avant le 7 octobre, hein, il avait dit à Fox News, on est sur le point de normaliser. Évidemment, les attaques du 7 octobre 2023 rebalancent toutes les cartes et donc ces attaques orchestrées par le Hamas en Israël et la guerre qui est conduite par Israël au lendemain de ces attaques vont bien entendu complètement rebattre les cartes. Alors, l'après 7 octobre 2023, quel rôle pour l'Arabie saoudite dans la reconfiguration du Proche-Orient? Donc, les guerres menées par Israël, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une guerre à Gaza, qui s'étend en Cisjordanie, qui est aujourd'hui quasiment annexée, et elle s'étend aussi à plusieurs fronts régionaux. Le Liban est trop régulièrement encore sous le coup des frappes israéliennes, la Syrie, le Yémen, jusqu'à l'Iran, cette fameuse guerre des 12 jours. Donc, ceci recompose profondément les rapports de force au Moyen-Orient, et cette dynamique qui accentue la fragmentation des États et des sociétés pose de manière très aiguë la question de la capacité de l'Arabie saoudite à influer sur le cours des événements. Donc, sous l'impulsion d'un prince héritier, Mohammed Ben Salman, plus expérimenté qu'il l'était lorsqu'il arrive au pouvoir en 2015, eh bien, il est entouré dorénavant d'équipes rentabilité indispensable à l'attractivité pardon, touristique et pour attirer les investisseurs étrangers. Hein. Donc, cependant, évidemment, 7 octobre 2023, je me dépêche, met en lumière la fragilité structurelle des monarchies du Golfe, toujours très très dépendantes du dispositif sécuritaire américain, qui est, elles s'en rendent compte, lui-même, prioritairement, qui va prioritairement vers la protection d'Israël, comme les événements depuis octobre 2023 le démontrent. Donc cette réalité va obliger le prince héritier à adopter une posture hybride. Alors, de fermeté verbale à l'égard du gouvernement israélien, qui quand même pendant presque 2 ans n'a pas accepté de cesser le feu, même si évidemment il y avait ces négociations difficiles avec le Hamas, où le Hamas avait à plusieurs reprises accepté de cesser le feu, que le Premier ministre Netanyahou, d'ailleurs très critiqué par sa population aussi, remettait toujours d'autres conditions. Donc, il y a un langage de fermeté adressé au gouvernement israélien, mais on laisse toujours la porte ouverte à une possibilité de normalisation, mais strictement conditionnée à la création d'un État palestinien viable. Donc le prince héritier, effectivement, ne peut absolument pas se permettre, comme les Émirats arabes unis, qui ont une population extrêmement faible, hein, de négliger une opinion publique massivement hostile à une normalisation avec Israël, compte tenu de ces guerres pendant 2 ans et des images que reçoivent les populations de Gaza. Parce que, contrairement à nous, il y avait quand même été extrêmement diffusé. Alors, les marges de manœuvre de Riyad restent néanmoins limitées et la crainte aujourd'hui d'une hégémonie militaire israélienne sur l'ensemble de la région, renforcé par le soutien très fort américain bipartisan à Tel Aviv, contraint fortement les trois saoudiens. Donc, tout glissement vers une polarisation accrue et une aggravation de la fragmentation des États et des sociétés, y compris de l'Iran, vient fragiliser les efforts déployés par Riyad pour essayer de trouver et stabiliser un équilibre au Proche et Moyen-Orient. Et donc, ce contexte a conduit le royaume à revoir sa posture stratégique et à repenser sa perception des menaces, alors même qu'un second mandat de Donald Trump s'inscrit donc dans la continuité du premier, avec un soutien conditionnel à Israël et une ligne très dure envers Téhéran. Alors, malgré cela, les équilibres régionaux ne sont plus du tout les mêmes. L'Arabie saoudite et ses voisins ajustent leur action et tentent de s'adapter au rapport de force post 7 octobre 2023, en re-hiérarchisant, si vous voulez, les menaces et en privilégiant une approche destinée à préserver les trajectoires de développement économique. Donc la réévaluation des menaces par Riyad, pour Riyad, le traditionnel antagonisme avec l'Iran a été sérieusement relativisé depuis l'affaiblissement de l'Iran, suite aux frappes israéliennes. Alors que Riyad soutenait pleinement la politique américaine de pression maximale durant le premier mandat Trump contre l'Iran, la priorité aujourd'hui pour Riyad est aujourd'hui d'œuvrer à diminuer, si vous voulez, le déséquilibre stratégique croissant en faveur d'Israël, qui est la seule puissance militaire régionale réellement déterminante aujourd'hui. Dans cette logique, Riyad, qui avait renoué avec la Turquie, après la réconciliation avec le Qatar, va chercher à apaiser la relation turque et à négocier le dossier, notamment à négocier sur le dossier syrien. Ils vont pleinement coopérer avec la Turquie, sachant que l'objectif de Riyad est aussi de faire en sorte que la Turquie n'occupe pas en Damas la place qu'occupait l'Iran avant la chute du régime assyrien. Donc le 10 décembre 2024. Et sur la question palestinienne, Riyad et Ankara avancent également désormais de manière commune. Alors l'affaiblissement notable de Téhéran et de ses relais, le Hezbollah affaibli, le régime syrien renversé, le Hamas décapité, offre certes à Riyad une, op- opportunité d'accroître son influence dans la région. Mais malgré les revers subis par l'Iran durant la guerre des 12 jours hein, en juin 2025 contre Israël et les États-Unis, le régime iranien fait tout de même preuve de résilience. Et d'ailleurs, lors d'un séminaire que j'ai organisé la semaine dernière à Israël, une spécialiste de l'Iran soulignait même que les frappes israéliennes avaient davantage déstabilisé la société civile iranienne que le régime iranien. Et ça avait même ravivé un sentiment patriotique au sein de l'Iran, même parmi les minorités les plus discriminées par le régime iranien. La stratégie de l'Iran, israélienne, notamment post 7 octobre 2023, est clairement de fragmenter le Proche et Moyen-Orient. Ils jouent sur les minorités, la minorité russe en Syrie, kurde aussi, la minorité kurde en Iran. Ils ont essayé de jouer sur les minorités baloutches et kurdes en Iran, mais ça n'a pas marché. Les minorités qui sont très anti-régime n'ont pas accepté les frappes israéliennes contre la violation de la souveraineté de l'espace iranien. Et ça, ça fait consensus, même chez les jeunes qui sont très massivement anti-régime. Donc là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Mais donc, l'hégémonie israélienne a ses limites. Mais l'hégémonie militaire israélienne est aujourd'hui la principale inquiétude des autorités saoudiennes et golfiennes, notamment depuis les frappes israéliennes le 9 septembre dernier sur un site résidentiel à Doha afin d'éliminer les cadres du Hamas qui négociaient cessez-le-feu. Ça a traumatisé les dirigeants golfiens. Hein, comment notre principal allié américain laisse faire son principal allié israélien taper un autre allié prioritaire dans la région. Donc, les Qataris, un jour, sont frappés par l'Iran, l'autre jour, par Israël. Donc, là, il y a très clairement une confusion des genres. Et donc, cette reconfiguration régionale sème la confusion et rebat les cartes en matière de menaces régionales. Alors, pour finir, je finirai par le rôle quand même incontournable des États-Unis dans la sécurité régionale. La visite du président Trump, pareil, à nouveau, première visite à l'étranger en Arabie Saoudite en mai 2025 dans son deuxième mandat, il avait fait la même chose lors de son premier mandat. À ceci répond la visite du prince héritier à Washington les 18 et 19 novembre dernier, en grande pompe, hein, une visite avec une délégation de 1000 personnes. Et donc, ça confirme bien que les États-Unis demeurent évidemment l'acteur central de la sécurité proche-orientale. Le choix du Royaume de faire des États-Unis sa première destination d'investissement dans l'intelligence artificielle réaffirme également l'absence d'ambiguïté stratégique de Riyad vis-à-vis de la Chine, qui est le partenaire économique majeur, mais qui n'est pas un partenaire aussi déterminant dans le domaine sécuritaire. Alors, pour les Saoudiens, cette visite, c'est éviter une répétition des attaques contre les sites vitaux, comme cela s'était produit en septembre 2019, ou du scénario traumatique des frappes israéliennes au Qatar le 9 septembre 2025. Ça a constitué l'objectif essentiel de la visite du prince héritier, qui est venu chercher un accord de sécurité et de défense gravé sur le marbre. Vraiment, on ne se contente plus des frappes sur le dos, des investissements mérites pour conforter l'ego de l'ami Trump. Mais ce que les Saoudiens cherchent, c'est un accord écrit, car ils ne croient plus sur parole ces administrations américaines qui ont à chaque fois défaut lorsque des petits boutons sont frappés. Enfin, ça, c'est la rhétorique des pays du Golfe, c'est pas la même. Donc, l'instabilité actuelle nourrit donc l'empressement de Riyad à obtenir un accord de sécurité mutuelle formel, avec un engagement américain plus substantiel que celui accordé au Qatar après le fameux décret du 29 septembre 2025, suite aux frappes israéliennes à Doha, où une déclaration unilatérale du président Trump stipulait que toute attaque contre le Qatar se tout est-ce que Riyad va conclure un accord de défense mutuelle avec Islamabad, avec le Pakistan, le 17 septembre 2025. Alors, c'est moins une volonté de se mettre sous parapluie nucléaire pakistanais qu'une volonté pour le royaume d'envoyer un signal très clair à Washington pour lui dire le royaume dispose d'options alternatives pour rééquilibrer les rapports de force, donc ce qui rend nécessaire une prise en compte sérieuse de ses demandes en matière de sécurité. Voilà. Donc, pour finir, c'est vrai que la fragilité structurelle de l'Arabie saoudite et des monarchies du Golfe rappelle qu'il faut évidemment garder raison dans les comparaisons, rappelle sous bien des aspects quand même celles des pays européens, qui disposent pourtant d'atouts plus solides pour se doter d'une autonomie stratégique, mais qui dépendent cruellement dispositif sécuritaire américain. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, face à un environnement régional instable et à un ordre international dérégulé, les États du Golfe entendent poursuivre la diversification de leurs partenariats économiques et stratégiques. C'est leur façon à eux de défendre leurs intérêts et d'assurer au mieux